Je restai un moment les yeux levés vers le ciel, comme si je le priais de m'inspirer, et je priais, en effet. Mais aussi, j'attendais que le duc d'Athènes, les maréchaux, le duc de Bourbon, l'évêque Chauveau, en qui je pensais trouver un allié, Jean de Landas, Saint-Venant, Tancarville et quelques autres, dont l'archiprêtre, se fussent rapprochés. Car ce n'était plus à présent parole seul à seul ou entretien de dîner, comme à Breteuil ou à Chartres. Je voulais être entendu, non seulement du roi, mais des plus hauts hommes de France, et qu'ils soient bien témoins de ma démarche. « Très cher sire, repris-je, vous avez ici la fleur de la chevalerie de votre royaume, en multitude, contre une poignée de gens que sont les Anglais en regard de vous. Ils ne peuvent tenir contre votre force. » Et il serait plus honorable pour vous qu'ils se missent à votre merci sans bataille, plutôt que d'aventurer toute cette chevalerie et de faire périr de bons chrétiens de part et d'autre. Je vous dis ceci sur l'ordonnance de notre très saint père le pape, qui m'a mandé comme son nonce, avec toute son autorité, afin d'aider à la paix, selon le commandement de Dieu qui la veut entre les peuples chrétiens. Aussi je vous prie de souffrir au nom du Seigneur que je chevauche vers le prince de Galles pour lui remontrer en quel danger vous le tenez et lui parler raison. » S'il avait pu me mordre, le roi Jean, je crois qu'il l'aurait fait. Mais un cardinal, sur un champ de bataille, cela ne laisse pas d'impressionner. Et le duc d'Athènes hochait le front, et le maréchal de Clermont et monseigneur de Bourbon. J'ajoutais, « Très cher sire, nous sommes dimanche, jour du Seigneur, et vous venez d'entendre messe. Vous plairait-il de sursoir au travail de mort le jour consacré au Seigneur? Laissez au moins que j'aille parler au prince. » Le roi Jean regarda ses seigneurs autour de lui, et compris que lui, le roi très chrétien, ne pouvait point ne pas déférer à ma demande. Si jamais quelque accident funeste survenait, on l'en tiendrait pour coupable, et l'on y verrait le châtiment de Dieu. « Soit, monseigneur, me dit-il, il nous plaît de nous accorder à votre souhait, mais revenez sans tarder. » J'eus alors une bouffée d'orgueil, le bon Dieu m'en pardonne. Je connus la suprématie de l'homme d'Église, du prince de Dieu, sur les trois temporels. Eussé-je été comte de Périgord au lieu de votre père, jamais je n'aurais été investi de cette puissance-là, et je pensais que j'accomplissais la tâche de ma vie. Toujours escorté de mes quelques lances, toujours signalé par la bannière de la papauté, je piquai vers la hauteur par le chemin qu'avait éclairé Ribemont en direction du petit bois où campait le prince de Galles. Prince, mon beau-fils, car cette fois quand je fus devant lui, je ne lui donnais plus du monseigneur, pour mieux lui laisser sentir sa faiblesse. Si vous aviez justement considéré la puissance du roi de France comme je viens de le faire, vous me laisseriez tenter une convention entre vous et de vous accorder, si je le puis. Et je lui dénombrai l'armée de France que j'avais pu contempler devant le bourg de Noyers. Voyez où vous êtes et combien vous êtes. Croyez-vous donc que vous pourrez tenir longtemps? Mais non, il ne pourrait longtemps tenir et il le savait bien. Son seul avantage, c'était le terrain. Son retranchement était vraiment le meilleur qu'on pût trouver. Mais ces hommes déjà commençaient à souffrir de la soif, car il n'y avait pas d'eau sur cette colline. Il eût fallu pouvoir aller en puiser au ruisseau le Miosson qui coulait en bas, or les Français le tenaient. Des vivres, il n'en était guère pourvu que pour une journée. Il avait perdu son beau rire blanc sous ses moustaches à la saxonne, le prince ravageur. S'il n'avait pas été qui il était, au milieu de ses chevaliers, Chandos, Grailly, Warwick, Suffolk, qui l'observaient, il serait convenu de ce qu'eux-mêmes pensaient, que leur situation ne permettait plus d'espérance, à moins d'un miracle. Et le miracle, c'était peut-être moi qui le lui apportais. Néanmoins, par souci de grandeur, il discuta un peu. Je vous l'ai dit à mon bason, monseigneur de Périgord, je ne saurais traiter sans l'ordre du roi mon père. Beau prince, au-dessus de l'ordre des rois, il y a l'ordre de Dieu. Ni votre père, le roi Édouard, sur son trône de Londres, ni Dieu sur le trône du ciel ne vous pardonnerait de faire perdre la vie à tant de bonnes et braves gens remises à votre protection si vous pouvez agir autrement. Acceptez-vous que je discute les conditions où vous pourriez, sans perdre l'honneur, épargner un combat bien cruel et bien douteux. Armure noire et robe rouge face à face. Le haume aux trois plumes blanches interrogeait mon chapeau rouge et semblait en compter les glands de soie. Enfin, le home fit un signe d'acquiescement. Le chemin d'Eustache dévalé, où j'aperçus les archers anglais en rang tassé derrière les palissades de pieux qu'ils avaient plantées, et me voici revenu devant le roi Jean. Je tombai en pleine palabre, et je compris, à certains regards qui m'accueillirent, que tout le monde n'avait pas dit du bien de moi. L'archiprêtre se balançait, efflanqué, goguenard, sous son chapeau de Montauban. Sire, dis-je, j'ai bien vu les Anglais. Vous n'avez point à vous hâter de les combattre, et vous ne perdez rien à vous reposer un peu, car, placés comme ils sont, ils ne peuvent vous fuir ni vous échapper. Je pense en vérité que vous les pourrez avoir sans coup férir. Aussi, je vous prie que vous leur accordiez répit jusqu'à demain, au soleil levant. Sans coup férir. J'en vis plusieurs, comme le comte Jean d'Artois, Douglas, Tancarville lui-même, qui bronchèrent sous le mot, et secouèrent le col. Ils avaient envie de férir. J'insistais, sire, n'accordez rien si vous le voulez à votre ennemi, mais accordez son jour à Dieu. Le connétable et le maréchal de Clermont penchaient pour cette suspension d'armes. Attendons de savoir, sire, ce que l'Anglais propose et ce que nous en pouvons exiger, nous n'y risquons rien. En revanche, Audrehem, oh, simplement parce que Clermont étant d'un avis, il était de l'autre, disait assez haut pour que je l'entendisse, sommes-nous donc là pour batailler ou pour écouter prêche ? Eustache de Ribemont, parce que sa disposition de combat avait été adoptée par le roi et qu'il était tout énervé de l'avoir en œuvre, poussait à l'engagement immédiat. Et Chauveau, le comte-évêque de Châlons, qui portait aume en forme de mitre peint en violet, le voilà soudain qui s'agite et presque s'emporte. Est-ce le devoir de l'Église, messire cardinal, que de laisser des pillards et des parjures sans repartir, sans châtiment ? Là, je me fâche un peu. Est-ce le devoir d'un serviteur de l'Église, messire évêque, que de refuser la trêve à Dieu ? Veuillez apprendre, si vous ne le savez pas, que j'ai pouvoir d'ôter office et bénéfice à tout ecclésiastique qui voudrait entraver mes efforts de paix. La Providence punit les présomptueux, messire. Laissez donc au roi l'honneur de montrer sa grandeur, s'il le veut. Sire, vous tenez tout en vos mains. Dieu décide à travers vous.